Glisser, à fleur du temps, des choses, des autres, de lui-même. Glisser, être lisse, bien coulé dans les normes de l'époque, conformiste, mais sans en avoir l'air, ni surtout en prendre conscience. Obtempérer à l'air du temps, ne pas se faire remarquer plus que nécessaire, toute cette inconsistance lui saute aux yeux et le prend à la gorge. Sylvie Germain est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son nouveau roman intitulé « Le vent reprend ses tours ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et pour Sylvie, nous avons pensé à Camille.
J'ai tout dit, j'ai terminé ma phrase, tout dit, j'ai tout dit, c'est gravé dans le marbre, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit, j'ai fui à la hussarde, tout dit, j'ai, tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh, ma sœur, il ne garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, j'ai, j'ai rompu le charme, tout dit, j'ai tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, du vent dans les arbres, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh, ma sœur, prends garde, tout dit, ne, tout dit, pas, tout dit, où tu mourras d'ennui.
Nous venons d'entendre cette magnifique chanson de Camille qui est dédiée à sa sœur Hildegarde de Bingen, que Camille a rencontrée à travers ses écrits il y a quelques années. Et si nous avons pensé à cette chanson pour ouvrir cette émission avec vous, Sylvie Germain, c'est parce qu'on a l'impression que quand on ouvre un de vos livres, on rentre dans une forme de sororité et que vous avez des sœurs. Elles ne s'appellent pas forcément Hildegarde de Bingen, quoique je suis sûre que vous connaissiez par cœur l'œuvre d'Hildegarde.
Par cœur, non, mais j'aime évidemment beaucoup et sa musique et sa poésie.
Et que vous avez des sœurs aussi, par exemple Etil Soum, sur laquelle vous avez écrit un livre magnifique, et que ces sœurs, même si elles ont disparu depuis longtemps, eh bien, elles restent des sœurs parce que ça reste des nourritures d'imaginaire et peut-être aussi d'inspiration.
Je parlerai d'amitié et ça me rappelle cette phrase magnifique dans un livre de Modiano d'Aura Bruder où il dit à un moment « Beaucoup de mes amis sont morts l'année de ma naissance ». Et beaucoup de mes amis sont morts parfois des siècles et des siècles avant ma naissance. Les amitiés se font aussi à travers les œuvres. C'est pas seulement d'ailleurs les poètes, les écrivains, mais des musiciens, des des personnages extrêmement divers et bien sûr des peintres. On a envie d'être amis même avec les peintres de Lascaux. Voilà, nos amitiés peuvent aller très très loin à travers le temps.
Mémoire, histoire, poésie, spiritualité, c'est peut-être un gros mot, mais je l'emploie à dessein quand on regarde votre œuvre, Sylvie Germain. Tout se mélange et s'agence à chaque nouveau texte qui sort. Celui-ci conjugue mémoire, histoire, poésie et presque philosophie, je dirais. On y reviendra tout à l'heure. Comment ces différents éléments se structurent et à partir de quelle matière s'organise le début du texte ?
J'arrive jamais à répondre à cette question parce que chaque fois que je pars dans un roman, qui est chaque fois vraiment une aventure, une découverte, j'ai souvent mentionné ça, une image mentale qui s'est formée ou un son, quelque chose, et puis qui ça relève du ressassement. J'aime beaucoup cette idée du ressassement. On ressasse aussi des images, des sons, des idées, des mots à une sorte de bas bruit, mais une sorte de bas bruit un peu continu. Et à force d'être comme ça dans ce ressassement, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se forme, il y a quelque chose qui se lève. Ça peut être comme une brume, ou comme une ombre, ou comme une forme vague. Ça m'intrigue suffisamment pour que je me décide à me mettre à écrire. Et parfois, vraiment, je ne sais pas, quand je commence un livre, je ne sais vraiment pas où je vais, qu'est-ce qui va se passer. Et assez vite, le personnage émerge, les choses émergent, se mettent en place, parce que je crois que les mots porte une intelligence, une sorte de logique, c'est-à-dire les mots et l'inconscient et l'imaginaire sont en première vue, ça peut sembler totalement incohérent, tout ça très dispersé, mais le fait, l'acte de décider de se mettre à écrire parce qu'on sent qu'on est quand même habité par quelque chose qui est en train de bouger en nous, et il faut de la concentration, de l'attention, de la patience, et peu à peu, les choses s'étoffent, les choses se mettent en mouvement.
Mais ce bas bruit que vous venez d'évoquer, Sylvie Germain, il vient de l'inconscient ? Il vient des rêves ?
Il vient de tout un ensemble de choses. L'inconscient, il est culturel aussi. L'inconscient, il est nourri par des tas de choses qu'on a vécues, par des sensations, des souvenirs, mais des souvenirs, des lambeaux de lecture, de films vus, de tableaux vus, mais aussi de lambeaux, de ce qui peut nous rester, de ce qu'on a appris de l'histoire, la grande histoire, mais aussi la petite histoire événementielle. Enfin, c'est tout. Et puis, bien sûr, tout ce qui a nourri notre enfance. C'est souvent les choses la plus profonde enfance aussi qui peuvent remonter. Et c'est tout ça qui forme une sorte de magma un peu informe. Mais si on est vigilant, si on se penche là-dessus, si on prend au sérieux cette espèce de matériau informe, peu à peu, il y a des condensations, des cristallisations, des condensations. Et tout le travail de l'écriture, c'est d'en tirer un récit.
Votre écriture, Sylvie Germain, peut être métaphorique, elle peut être aussi archaïque, elle peut nous emmener dans les cavernes de notre inconscient, comme elle peut rassembler les fils de l'histoire la plus contemporaine. Il y a cependant des thématiques communes à l'intérieur de tous vos textes, c'est cette espèce d'invitation à revisiter nos grandes mythologies. Je crois que vous êtes peut-être une lectrice attentive de la Bible et notamment de l'Ancien Testament. Je sais que vous êtes aussi une lectrice de philosophie. Je vous propose d'écouter la voix d'Emmanuel Lévinas qui va évoquer sa lecture de la Bible. C'est une archive INA de juin 1991.
La Bible n'est pas du tout une série d'affirmations dogmatiques. La lecture dogmatique de la Bible n'est pas en tout cas une lecture juive, et au contraire, la Bible est une série d'événements humains où Dieu fait apparition, où l'idée de Dieu entre dans l'esprit, et où, par conséquent, nous sommes aussi très éloignés de cette contemplation froide et qui serait, d'après ce que vous venez de dire, l'attitude philosophique.
que représente Emmanuel Lévinas pour vous, Sylvie Germain?
Je suis toujours touchée d'entendre sa voix qui est tellement singulière. Et je voulais vous dire, vous avez vraiment bien choisi les deux extraits sonores. En apparence, rien à voir entre la chanteuse Camille et Emmanuel Lévinas. Mais il y a une chose à laquelle je suis très sensible, c'est le souffle. Dont il est beaucoup question d'ailleurs dans mon livre. Je suis très sensible au grain des voix et au souffle qu'on peut entendre. Et la voix d'Emmanuel Lévinas était très très particulière, et on entend toujours ce souffle. Ça scandait vraiment sa pensée. Et souvent j'ai remarqué...
Est-ce que vous écoutiez, vous alliez à ses séminaires?
J'ai eu la chance immense de pouvoir assister les deux dernières années où il enseignait à la Sorbonne, de pouvoir assister à ses conférences. Et j'avais pas pu, parce que je travaillais en même temps, aller à ses séminaires, mais il avait cette voix comme ça, et on sentait que quand il parlait, on sentait une pensée en train de s'élaborer, une pensée sans fin, sur le travail, et ça c'est magnifique. Et la chanteuse Camille, avant cette chanson, on entend il y a cette petite ponctuation, ces petits comme des piou-piou d'oiseaux, elle parle des oiseaux, et en même temps il y a le souffle aussi, et il y a des silences. Elle ose introduire, c'est quand même chapeau, elle ose introduire des temps de silence dans une chanson, ce qui n'est quand même pas évident. Donc vous voyez, c'est tout cet ensemble qui fait que ça laisse le temps à l'auditeur de la chanson d'une part, a fortiori du philosophe, de suivre, de s'adapter, de pouvoir prendre le rythme, parce qu'il y a une forme de lenteur qui est dedans, et la pensée a besoin aussi à la fois parfois de rapidité, d'échapper rapide et d'échapper belle, mais en même temps il faut aussi cette lenteur, cette attente, cette écoute.
Pour nous, lectrices et lecteurs de vos textes, Sylvie Germain, nous avons l'impression d'accéder à un univers initiatique. Chaque roman est un univers clos sur lui-même, décrivant une géographie sentimentale, une géographie politique, une géographie poétique aussi. Avez-vous l'impression que vous avez les clés d'un univers un peu chamanique ?
Non, malheureusement, je n'ai pas les clés. Mais c'est moi ce qui m'intéresse, et à la limite, les clés, c'est l'écriture elle-même. Mais c'est l'écriture pendant qu'elle s'élabore. C'est ça les clés. Et finalement, c'est comme plutôt un trousseau de clés immense, et on essaye une et puis une autre. Mais je prétends pas avoir la clé de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ça serait même un petit peu presque triste, parce que une fois qu'on a la clé, qu'on a ouvert et qu'on se dit, ben voilà, je suis arrivée à mon but. Quel but d'ailleurs. Quelque chose s'arrête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette mise en mouvement, fût-ce un mouvement lent, fût-ce un mouvement discret ou ralenti comme ça, mais c'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, la vie, c'est du mouvement permanent, même s'il n'est pas visible à l'œil nu, même s'il n'est pas audible comme ça au premier abord, il y a un mouvement continu, une sorte de basse continue comme ça, justement, de la vie qui est le propre de la vitalité.
Vous êtes en train de nous dire, Sylvie Germain, que c'est le mouvement de l'écriture lui-même qui génère de l'écriture,
oui,
qui engendre la création de personnages, qui vous guide. Vous êtes guidée par,
oui,
vos personnages.
Tout à fait. J'avais d'ailleurs, il y a des années de ça, consacré un petit livre qui s'appelait « Les personnages » pour essayer d'indiquer un petit peu la façon dont ça vient à l'imagination d'un romancier, comment les personnages se présentent. C'est pas valable peut-être pour tous les romanciers, il y en a qui vivent ça autrement. En tout cas, moi, c'est de cette façon-là. On a l'impression que soudain, quelqu'un effectivement vient vous visiter. Il y a aucune magie là-dedans, hein, parce que effectivement, ça vient de sa mémoire, entre mémoire et oubli, ça vient de son imaginaire, ça vient de l'inconscient, ça, je sais pas quel mot il faut mettre sur tout ça. Ça, c'est quelque chose s'est formé qui vient pour un philosophe, vraiment véritablement philosophe. Ça va être sous forme, ça va être des concepts, ça va être des idées qui viennent à l'esprit. Ça, c'est des expressions d'air de Lévinas. Et je suis plus romancière finalement que philosophe. Et moi, ça se passe surtout sous forme d'image, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement visuel. Bon, il y a un personnage qui commence à se mouvoir un petit peu dans mon imagination. je fais confiance justement à cet inconscient, à cette, à, j'ai envie de dire, à la chair de l'imaginaire et à la chair des mots et à l'épaisseur des mots, à leur résonance. Les mots nous guident aussi. Les mots aussi, c'est vivant. Les mots aussi, ça bouge.
Nous allons écouter la voix de Nathalie Sarraute à propos de l'œuvre poétique. C'est une archive INA du 11 mai 1985.
Toute écriture, même romanesque, devrait être une écriture poétique, c'est-à-dire qu'elle devrait être primordiale. Le rôle de l'écriture devrait passer avant tout. Ce serait le rôle dominant, ce serait le rôle du langage. Le langage doit dominer si on veut vraiment que ce soit une œuvre littéraire digne de ce nom. Tandis que dans le roman habituel, dans le roman qui, à mon avis, est hors de la littérature, le langage est transparent, on traverse le langage pour voir ce que ça signifie, ce que ça veut dire. Et le langage lui-même, on ne le voit pas. Il faut qu'on voit à quoi le langage se rapporte, mais il faut aussi que le langage, par lui-même, donne une sorte de plaisir. Le plaisir que j'en tire moi-même en écrivant. Si le lecteur n'a pas ce plaisir qui lui vient de la forme, de l'écriture, de la sonorité, etc., ben ce n'est plus du langage poétique, c'est de la prose plate.
Nous venons d'entendre la voix de Nathalie Sarraute, orfèvre en littérature, qui a passé son temps à essayer de décrire l'indescriptible, notamment dans Tropisme, et puis qui, à la fin de sa vie, de manière assez extraordinaire, a publié ce livre qui s'appelle « Enfance ». Et quand on vous lit, Sylvie Germain, on se dit que la même exigence, la même recherche des mots justes pour décrire justement ce qui n'est pas possible véritablement d'exprimer, mais que vous allez pouvoir, avec précision, grâce aux mots que vous allez choisir, nous offrir.
Elle parlait de plaisir, et si on parle de poésie, là, particulièrement de poésie, j'ai envie d'employer un mot qui s'emploie peu, qui est peut-être un peu rare, mais que je trouve très beau, que Roland Barthes d'ailleurs avait utilisé, c'est le mot de fruition. Il est très beau, ce mot.
Je connais pas ce mot.
La fruition. Alors, c'est un mot qui est souvent employé plutôt réservé au langage de la mystique. C'est l'idée d'une jouissance extrême, comme on parle de la jouissance pour la jouissance sexuelle. Là, c'est la jouissance chez les mystiques. On parlait d'Hildegard de Bingen tout à l'heure. C'est cette espèce d'extase ou de délectation que l'on peut avoir dans peut-être des éblouissements. Je ne parle pas du tout pour moi, je n'ai jamais connu ça. Mais j'aime beaucoup ce mot de fruition, et je crois que Barthes, quand il en parle, le mentionne par rapport peut-être au langage, ou ça doit être dans le discours amoureux. Et c'est tout à fait ça, quand je l'entendais parler de plaisir, c'est plus que ça encore. Il y a jubilation, c'est un mot que j'aime bien, la jubilation, parce qu'il y a une sorte de joie, des guémandes. Il y a à la fois de la jubilation, de la jouissance, et on peut parler de fruition. Il y a des mots, parfois il y a des vers, on s'arrête en lisant un poème, ça peut être des mots très simples, mais la manière dont un poète les a disposés et la manière dont ils vont se heurter, s'entrechoquer et en même temps rentrer dans une sorte d'harmonie improbable, c'est de l'ordre de la fruition. Il y a une fruition des mots, voilà. Je trouve ça très beau ce qu'elle disait sur la poésie, le langage.
Alors nous allons essayer de continuer à être dans cette fruition. Je vous propose d'écouter la voix de Gérard Depardieu qui va lire les confessions de saint Augustin. C'était à Notre-Dame. C'était en 2003.
Mon Dieu, qu'est-il? Je le demande, sinon le Seigneur Dieu, qui est en effet Seigneur hormis le Seigneur? Qui est Dieu hormis notre Dieu? Toi très haut, très bon, très puissant, très tout puissant, très miséricordieux et très juste, très secret et très présent, très beau et très fort, inébranlable et insaisissable, échappant au changement et changeant tout. Jamais neuf. Jamais vieux, renouvelant tout, amenant sans qu'il le sache les orgueilleux à la décrépitude, toujours en action, toujours en repos, amassant sans être dépourvu, portant et emplissant et protégeant, créant et nourrissant, parfaisant, cherchant, sans que rien ne te manque. Tu aimes, mais sans brûler. Tu es jaloux et sans inquiétude. Tu te repens sans pâtir. Tu t'irrites sans perdre le calme. Tu changes d'avis sans changer de dessein. Tu reprends ce que tu trouves sans jamais l'avoir perdu, jamais en manque. Tu te réjouis de gagner, jamais avare, tu exiges à usure. Et qu'avons-nous dit, ma vie, mon Dieu, ma sainte douceur? Que dit-on quand c'est de toi qu'on parle? Qui me donnera de reposer en toi? Qui me donnera que tu viennes en mon cœur et que tu t'enivres afin que j'oublie mes maux et que mon unique bien, je t'étreigne?
Vous aussi, vous tutoyez Dieu, Sylvie Germain?
Non, et c'est en plus ce vocable Dieu me laisse toujours un peu insatisfaite et dubitative. Tout dépend ce qu'on met sous ce vocable. Voilà, que dit-on quand on dit Dieu, hein, comme ça vient d'être dit. C'est tout à fait ça la question. Que dit-on? Que met-on sous ce vocable fou? Quand on voit ce que malheureusement tant d'humains au fil des siècles et encore maintenant mettent projet de leurs propres fantasmes et souvent des fantasmes de pouvoir dans ce vocable, c'est un petit peu terrifiant et décourageant. Et d'où l'intérêt de lire, de revenir soi-même au grand texte fondateur des religions pour faire une lecture à la fois en s'appuyant sur des lectures de peut-être d'exégètes, etc. Mais en même temps, sa lecture singulière, en toute modestie, sa lecture singulière par rapport aussi aux valeurs qu'on a, à la sensibilité qu'on a, et essayer de donner sa propre résonance à ce vocable, qui est un vocable, c'est l'auberge espagnole, hein, finalement.
Que donc vous êtes une lectrice des textes de l'Ancien Testament, de textes mystiques, mais sans avoir de maître initiatique. C'est une nourriture comme une autre pour vous?
Pas vraiment comme une autre, c'est une nourriture comme une nourriture de base, j'ai envie de dire. Une nourriture
qui fonde le socle de votre
comme
littérature.
On parle les choses dont on pourrait pas se passer pour survivre, par exemple l'eau et le pain. Voilà, l'eau et le pain. La Bible, ça peut être ça. Alors bien sûr, après, on peut décliner. Oui, l'eau, et il y a toujours le thème de l'huile et le thème du vin. Bon, on peut trouver d'autres éléments. Mais vraiment de base, ça serait ça. Ça serait l'eau et le pain. Oui.
Et vous lisez toute seule?
Oui, mais je suis pas une si grande lectrice que ça. Peut-être je donne illusion, je suis pas une si grande lectrice. Simplement, parfois, il y a des passages qui, pour moi, sont des sortes de propositions de sens, qui sont des sortes d'explosions du sens et qui permettent, justement, ça ouvre des pistes absolument inouïes de pensée qui vont vers de l'impensé, vers de l'impensable, mais qui fait en même temps ressac et qui revient, qui relance ce questionnement, qui relance cet étonnement. Je cite par exemple très souvent, je l'avais même mis dans un roman, à l'extrême fin de mon roman Magnus, évidemment romancé, un des passages qui pour moi vraiment fondateur du Premier Testament, qui est l'expérience du prophète Élie au mont Horeb, quand Dieu se révèle dans rien de ce qui est spectaculaire et violent, mais dans ce que, d'après la traduction de Lévinas, on revient toujours à lui, une voix de fin silence, c'est-à-dire un souffle ténu, un je ne sais quoi, un trois fois rien, un presque rien, etc. Ça, c'est magnifique. Ou certains passages des évangiles aussi, qui renvoient toujours à cette idée de mais que finalement, qu'est-ce que désigne comme temple le Christ? Jamais un lieu précis. L'être humain, en fait, ce qui est sacré, ce qui est saint, c'est l'autre, c'est l'être humain, c'est la vie humaine. Et c'est des choses comme ça, moi, qui m'émerveillent, qui m'interrogent, qui m'étonnent. Et je suis toujours aussi étonnée, là, tristement étonnée, parfois de distorsions terribles, brutales, identitaires et absurdes que l'on fait avec tous ces textes.
Vous avez consacré un livre à Est-il Soum, Et on peut dire que, quelquefois, la grâce s'empare de certains êtres. Je ne sais pas si c'est Dieu ou quelqu'un d'autre qui les a désignés pour pouvoir bénéficier de cette grâce. Mais en tout cas, dans ce livre magnifique que vous avez consacré à Eti Lsoum, il semble bien que ça soit la force intérieure d'une croyance en quelque chose de plus fort et de plus grand que soi-même. C'est d'ailleurs une des thématiques qui parcourt toute votre œuvre littéraire, Sylvie Germain, qui lui est permis de vivre dans ces atroces souffrances et de pouvoir en témoigner.
L'expérience d'Eti Lsoum, je pense que maintenant beaucoup de personnes connaissent son... Difficile de dire son œuvre. En fait, son œuvre, c'est sa vie. Et parce qu'elle n'a pas eu le temps d'écrire justement l'œuvre qu'elle rêvait d'écrire, puisqu'elle est morte à l'âge de 29 ans à Auschwitz. Et on la connaît par le journal qu'elle a tenu entre 1941 et 1943, et qui finalement le journal d'une sorte de mise au monde de l'esprit chez quelqu'un. Vraiment d'une dimension de l'esprit. Je parlerai pas d'âme, mais vraiment de l'esprit. Et tout ça d'une manière au début qui semble un petit peu braque, un peu foutraque comme ça, parce qu'elle doit sortir d'une sorte d'enfermement un petit peu en elle-même, un elle-même passionnel, souffrant, etc. Et peu à peu, sous l'étau vraiment qui se referme sur la communauté juive d'Amsterdam, parce qu'elle était juive d'Amsterdam, ce qui se passe en elle est absolument étonnant. Et ça rappelle d'ailleurs, je crois que c'était dans des textes de Bernanos, où il parle à un moment à propos du Christ, de la souffrance du Christ à Gethsémani, au moment où il a cette fameuse sueur de sang dont il est parlé, et il parle comme si c'était un pressoir où on presse des olives. Et le pressoir fait que tout craque, tout casse, la chair, le noyau et tout, et reste cette huile de pure nourriture qu'est l'huile d'olive. Et on a l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe avec Eti Lsoum. C'est comme si elle était plongée, tout son être, dans un véritable pressoir. Elle est littéralement broyée et il en sort quelque chose d'absolument extraordinaire.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Sylvie Germain, Les Platters.
Some people say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. A muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns, and what do you get? Another day older and deeper and in. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rode 16 guns, I'm normal and cool. And the strong boss said, Bella, bless my soul, you know, 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper and dim. Say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist is fine, the other still. If the right one don't get you, then the left one will. You know, 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper and dense. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. A fighting trouble on my middle name. I was raised in a kingpin, but old mama line can't know how to make me walk the line. You know, 16 guns, and what do you get? Another day older and deeper and dense. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul
company's door.
Merci pour ce choix, Sylvie Germain. Vous aimez danser, vous nous avez fait danser là sur cette chanson des Platters. Pourquoi ce choix ?
Il ferait danser des pierres, une voix pareille. C'est parce que c'est une voix que je trouve absolument magnifique. Elle est profonde, elle est infiniment sensuelle. Il y a une espèce de à la fois de force et de douceur. Enfin, il y a tout. Et puis le texte est intéressant. C'est une chanson des mineurs qui portent des tonnes. Voilà, comme c'est une très très belle chanson.
Alors, à l'intérieur de votre œuvre, Sylvie Germain, je dis œuvre parce qu'il y a combien, je sais même pas, une trentaine de romans.
Non, une trentaine de livres.
Voilà, oui, publiés.
Peut-être une quinzaine.
Vous faites des colloques dans le monde entier, vous êtes traduit
dans le monde entier.
Écoutez, j'ai sous les yeux un texte qui s'intitule L'univers de Sylvie Germain, qui est paru aux presses universitaires de Caen, et on raconte qu'on fait des colloques sur vous dans le monde entier, je vous assure. Sylvie Germain et la peinture, Sylvie Germain et les références bibliques, Sylvie Germain et l'âme, Sylvie Germain et le vide, etc., etc. Donc, ce que j'ai trouvé complètement étonnant dans votre nouveau livre, Le vent reprend ses tours, c'est que vous avez encore une fois changé d'univers, vous nous étonnez, et par une construction narrative extrêmement sophistiquée, vous allez nous conduire dans l'univers d'un type qu'on connaît au début quand il est un jeune homme. Ce qui est très compliqué à l'intérieur de ce livre, c'est que pour ne pas porter atteinte à la curiosité des futures lectrices et lecteurs, je ne peux pas beaucoup en dire. Je peux dire que quelquefois, on a plusieurs vies. C'est le cas de votre personnage principal.
Oui, c'est-à-dire on a plusieurs vies parce que il arrive dans l'enfance ou l'adolescence ou encore jeune que notre vie soit éminemment contrariée, voire pire que ça, meurtrie, prenne du coup vraiment des terribles faux plis à cause d'un mensonge, à cause d'un malentendu. Parfois c'est simple, et là c'est un mélange des deux. Hein. Malentendu, une trahison, un deuil, une déception, enfin bon... Le panorama, malheureusement...
Une responsabilité, une culpabilité, oui, qui sont aussi des thèmes récurrents à l'intérieur de votre écriture.
Ou des choses qui vont trop vite, des gens qui sont embarqués trop vite, par exemple, responsabilité aussi d'être père ou mère à un âge où ça n'a pas été désiré, enfin, ou embarqué dans une guerre, etc. On peut trouver plein d'exemples. Et parfois, parce qu'on n'a pas osé, on n'était pas encore assez mûr ou assez fort pour résister à la pression familiale ou à la pression sociale, et du coup, on ne fait pas les études qu'on aurait aimé faire, on ne fait pas les choix qu'on aurait voulu faire. Et il y a des gens, ils passent hélas leur vie à côté de la vie qu'ils auraient aimé avoir et qui ne peuvent que rêver. Et du coup, chez certains, chez beaucoup, hélas, parce que le malheur rend rarement bon, ça génère de la rancœur, de la tristesse, de la dépression, enfin beaucoup de choses. Ce personnage, donc, a sa vie après un faux pli très tôt, à cause d'un mélange de mensonges et de malentendus dont il a été victime. Et pendant presque une trentaine d'années, oui, il réussit financièrement, socialement sa vie, parce que justement, il n'a plus de... Comme il n'a plus vraiment de véritable désir, ni même de scrupules, une image calamiteuse de lui-même, il fait des affaires, ça fonctionne, ça va, mais il vit à côté de lui-même, ce n'est pas un homme heureux. Il ne sait même pas qu'il est malheureux, mais en tout cas, il n'est pas heureux. Et puis un jour, quelque chose va déclenché du nouveau, c'est-à-dire que ce malentendu sur lequel il a vécu et raté sa vie pendant si longtemps est soudain levé, et à partir de là, il reprend sa vie en main et il va complètement changer une manière de vivre et vivre la vie que peut-être il aurait voulu vivre ou peut-être pas. Mais il se met, lui, dans les pas d'un autre personnage qui, dans son enfance, lui avait ouvert un peu l'univers du rêve, de la fantaisie, donné la saveur de ce qu'est vraiment la vie. Et il a mis tout ça, ça a été endeuillé, il a mis tout ça de côté pendant longtemps, et soudain, il retrouve ça, peu importe que ce soit avec 30 ans de retard, le principal, c'est que ça advienne.
Le vent reprend ses tours, c'est une citation de l'Ecclésiaste. Pourquoi ?
Oui. C'est un peu sorti du contexte de l'Ecclésiaste, parce que dans l'Ecclésiaste ou Coëlette, c'est un côté assez négatif, assez mélancolique. Le vent souffle vers le nord, puis vers le sud, à l'est, et il revient, il reprend ses tours, c'est-à-dire l'idée qu'il reprend ses circuits. Alors, il y a à la fois ça, parce que ce soit dans l'histoire des individus, nos histoires personnelles, ou dans l'histoire avec un grand H, il y a des retours. Je voudrais pas dire, mais là, récemment, il se passe des choses où on sent aussi des retours un peu fétides. Et il y a des retours comme ça constamment, mais en même temps, c'est jamais à l'identique. Il y a toujours des déplacements. D'ailleurs, quand le vent tourne, il tourne pas en faisant un cercle parfait toujours sur lui-même. Ça se décentre, ça peut rentrer en spirale, ça peut, vous voyez, se mouvoir un peu à droite, à gauche. C'est aussi reprend ses tours au sens de reprend sa dynamique. Et dans la vie de cet individu, il y a à la fois le vent qui se relève après un trop long calme plat. Le vent se relève et redynamise son existence, redynamise sa mémoire. Et c'est à la fois au plan personnel des individus et aussi de l'histoire.
Il y a aussi l'idée qu'on n'est pas forcément assigné à un destin, qu'il soit social ou qu'il soit familial. Et qu'effectivement, malgré les mensonges, malgré les misères qu'a pu endurer ce personnage dans sa haute enfance, eh bien, il y a un âge où on peut essayer d'être lucide vis-à-vis de soi-même. Et comme on dit dans l'expression française, on reprend en main sa propre vie.
Oui.
Avec cette liberté qu'on avait mis de côté, mais qui tout d'un coup paraît impérieuse.
Et il le fait d'autant plus qu'il s'appuie sur l'exemple de cet homme qui avait compté pour lui dans son enfance, qu'il avait cru disparu, et sur lequel finalement il va enquêter, il va repartir sur les traces de cet homme, découvrir son histoire et son histoire personnelle incrustée jusqu'à aux plus grandes blessures dans l'histoire de l'Europe. En l'occurrence, là, c'est la Roumanie. Cet homme sur lequel il va enquêter étant un homme qui était roumain et d'origine en partie rome roumain de par sa mère et qui a connu, donc, comme on a connu hélas en Roumanie, à la fois les persécutions du temps du nazisme et puis les persécutions du temps du communisme. Et cet homme est un exemple de volonté de survie coûte que coûte et vaille que vaille, qui est extrêmement important pour l'autre personnage qui s'appelle Nathan. Le plus jeune s'appelle Nathan, voilà, et ce roumain,
comme par hasard,
Gavril.
Alors, votre dernier texte, intitulé « Le vent reprend ses tours », se confronte à l'histoire du XXe siècle, à l'histoire de la Shoah. C'est pas la première fois que vous abordez cette tragédie. Vous nous restituez des pages de l'histoire contemporaine à l'intérieur de ce livre et vous évoquez effectivement comment la transmission de la mémoire est absolument fondamentale pour continuer à vivre dans la démocratie et dans le respect d'autrui. Je vous propose d'écouter la voix de Marceline Loridan-Ivens à propos de la solidarité des prisonniers dans les camps. C'est une archive INA du 21 septembre 2009.
Chaque geste de tendresse, de solidarité était tellement précieux et tellement rare que j'ai la nostalgie de mes copines, quoi, perdues, mortes. Vous savez, on vivait en couple dans le camp. On vivait par deux. C'est-à-dire, c'était complètement déchargé de toute sexualité, bien entendu, mais on partageait toujours son pain avec quelqu'un d'autre. Et l'une le mangeait trop vite et l'autre le mangeait par petits bouts. Moi, je faisais partie de celles qui le mangeaient tout de suite. Et j'avais toujours des copines qui me disaient « Mais non, attends un peu, il vaut mieux le manger petit à petit. » On avait une petite ration, je sais pas, par jour de 150 grammes de pain, c'est pas beaucoup, 200 grammes maximum. Et j'en avais une particulièrement que j'ai beaucoup aimée, Françoise. Et quand je suis tombée très, très gravement malade, j'ai tout fait pour ne pas aller dans ce qu'on appelait le révire, l'hôpital, entre guillemets, qui était vraiment une espèce de baraque, pas mieux que les autres, mais qui était le lieu où on venait souvent faire des vidages pour la chambre à gaz. Donc j'ai tout fait pour masquer le fait que j'avais plus de 42 fièvres, que j'avais des crises abominables, et quelques copines, quand on travaillait, avait creusé un trou et avait trouvé une sorte de planche pour me cacher dans le trou, pour que je me repose en cachette de la capot et des sous-capots. Et il y avait Françoise qui aurait pu manger mon pain, puisque je pouvais même plus le manger, mais qui plutôt essayait de trouver de la quinine ou de l'aspirine pour calmer mes fièvres. Donc qui peut faire ça? Qui fait ça dans la vie? Vous en connaissez beaucoup, vous?
Nous venons d'entendre le témoignage de Marceline Loridan à propos de son expérience dans les camps, dont elle a témoigné à travers la publication de plusieurs de ses livres. Et vous, Sylvie Germain, dans ce nouveau texte, mais dans d'autres textes aussi précédents, vous évoquez la mémoire de la Shoah, vous évoquez par ce personnage qui s'appelle donc Gavril à l'intérieur du nouveau roman, vous évoquez donc cette double peine qu'il a reçue pendant la Seconde Guerre mondiale, les camps, et aussi après les camps, le fait d'être Rome, d'avoir continué à être stigmatisé, mais pas seulement. Comme souvent dans votre écriture, Sylvie Germain, vous profitez de la temporalité que vous allez habiter pour restituer les souvenirs d'autres personnes. Et comme un petit poussé qui met des pierres blanches, par exemple, à l'intérieur de ce texte, notamment dans le premier tiers, vous allez évoquer Benjamin Fondane, qui est aujourd'hui assez, hélas, inconnu. Comme si
très méconnu, très négligé.
Et trop
oui,
méconnu.
Oui.
Vous allez citer des poèmes de lui, vous allez restituer sa biographie, comme si effectivement l'écriture d'un roman qui se coltine avec la réalité des tragédies du XXe siècle avait aussi une fonction de remémoration d'un passé proche qu'on a eu tous tendance finalement à oublier, notamment oublier les plus grands des écrivains.
Il y a également, je cite quelques vers vers la fin de Gerasim Luca, c'est-à-dire ce sont
magnifique, Gerasim Luca.
Des poètes d'origine roumaine, tous. Et je trouve que dans l'espace des livres permet ça, de faire des signes. Alors un roman, on peut pas faire énormément de citations. Un roman, voilà, c'est, mais ça permet de faire des signes, de faire des rappels et de rendre hommage et de faire aussi, c'est une sorte de geste de gratitude en un sens à l'égard, là en l'occurrence d'auteurs, ça pourrait être parfois des peintres ou d'autres artistes, et qui nous ont apporté quelque chose. Ça aussi, c'est de l'ordre du pain, vous voyez. On parlait du pain, des petits morceaux de pain. Et tous ces auteurs, tous ces poètes, là, en l'occurrence, il s'agit de poètes, font partie de ceux, ils sont nombreux, mais qui ont nourri aussi mon imaginaire, mon amour du langage, le questionnement devant le monde. Ils comptent pour moi. Ils font partie de tous ces amis qui sont morts même avant ma naissance. Et pour, si on peut saluer ces amis, c'est bien.
J'ai l'impression qu'à l'intérieur de votre travail d'écriture, dans votre fabrique d'écriture, il y a quand même, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a une dimension inconsciente. Vous avez dit que vous étiez guidé par les personnages que vous inventiez. Je ne sais pas si vous avez inventé Nathan et si vous avez inventé Gavril. En tout cas, ils nous apparaissent, nous, comme des êtres bien vivants. On pense que Nathan, il est vivant, que Gavril, il a vraiment existé. La construction de votre dernier roman ménage tellement de suspense qu'on va découvrir par petits bouts, et ce jusqu'à la fin, la vérité sur ces deux personnages. Mais en tout cas, la psychanalyse, et ce depuis longtemps, nourrit, je crois, en partie votre imaginaire. Je voudrais qu'on écoute la voix de quelqu'un qui vous connaissait bien, qui hélas a disparu, qui s'appelait J.B. Pontalis,
oui,
qui était devenu écrivain. Après avoir été psychanalyste, il a continué à mener les deux
de front.
Métiers de front. Nous allons l'écouter, Pontalis. Il va comparer la psychanalyse et la littérature. C'est une archive INA du 1er mars 2010.
J'ai déplacé, ou peut-être cherché en tout cas une autre voie. Vers quoi? Vers ce que je ne connais pas bien. Parce que l'analyse, c'est tout à fait ça, c'est aller au-devant de ce qui est inconnu en soi, et qui va plus ou moins se révéler, en tout cas, quand on va approcher en cours d'analyse, et avec les patients, c'est la même chose. Je le dis souvent, c'est la rencontre de deux inconnus. Quelqu'un vient me voir, je ne sais rien de lui, il n'est pas du même milieu, il n'a pas la même histoire, il n'a pas la même névrose que moi, il n'a pas les mêmes fantasmes, et en un sens, il ne parle pas la même langue. Et lui, c'est pareil pour moi, il ne sait rien de moi et tout. Et la rencontre entre ces deux inconnus va naître quelque chose d'inconnu. Et la littérature, enfin ma littérature, c'est un mot un peu ambitieux peut-être, un peu emphatique pour les petits livres que je fais, ça représente ça pour moi. Je ne fais jamais de plan, je ne sais pas trop où je vais aller quand je commence à écrire, et je ne veux pas parler de ce que je connais par cœur de moi, là. J'essaye que quelque chose de nouveau apparaisse, donc c'est une autre forme tout à fait différente de la psychanalyse, hein, je ne les confonds pas. Mais une autre forme de recherche, non pas d'un centre, parce que le centre est toujours introuvable, il dérobe de son propre centre, il se déplace, comme vous diriez. Mais enfin, une manière d'approcher de ce que j'ignore et peut-être de pouvoir en dire quelque chose.
Très touché d'entendre sa voix. C'est quelqu'un qui manque vraiment beaucoup.
Quelle est la part ignorée de vous-même, Sylvie Germain ? En reste-t-il encore ?
Je pense que on revient à la fameuse image de l'iceberg. La part ignorée, c'est la plus grosse. Pour en revenir à ce que vous aviez dit tout à l'heure, les personnages, c'est complètement inventé, vraiment totalement inventé. Non, on ne se découvre pas soi-même. D'ailleurs, il s'agit moins de se découvrir que, d'accord, faire émerger certains pans de soi-même, et parfois des pans bien obscurs d'ailleurs, mais pour s'en débarrasser à la limite. Et l'écriture, en un sens, peut aider, parce qu'elle fait émerger beaucoup de... On parlait de l'inconscient, donc de choses qu'on ne soupçonne pas toujours porter en soi, comme souvenirs, comme fantasmes, comme névroses, comme tout ce que vous voudrez. Tout ça coule, part dans le langage, dans l'écriture, mais en un sens, on a déposé quelque chose, et puis la vie continue, l'écriture continue, voilà. Et c'est moins pour se connaître que pour se débarrasser aussi un peu de soi.
Oui, mais je vais revenir sur ce monde initiatique dans lequel vous nous conduisez de manière assez implacable, et notamment dans ce dernier roman, ce n'est pas la première fois. Il y avait eu auparavant À la table des hommes, où évoquant la figure de l'enfant sauvage, vous nous livriez une métaphore sur la cruauté des hommes et l'absence de compassion et de pitié et de reconnaissance de l'humanité. Et là, à l'intérieur de ce dernier roman, on a l'impression que vous allez nous ouvrir encore une porte. Et cette porte, c'est celle de la méconnaissance de nous-mêmes. On ne se connaît pas soi-même, mais de temps en temps, en tout cas c'est peut-être comme ça que j'ai cru comprendre la fin de votre roman, que je ne peux pas livrer ce soir, mais en tout cas, de temps en temps, des portes s'ouvrent. Des histoires peuvent se raconter et des vérités peuvent éclater.
Oui, non, on se connaît très mal soi-même, on pense, mais comme on connaît aussi très mal les autres, comme on méconnaît tant de choses, mais ça ne veut pas dire que ce soit une ignorance absolue. Et c'est pas négatif non plus. Ça permet de changer un peu les points de perspective, de se remettre en mouvement et du coup de continuer à écrire. On fait jamais le tour du domaine d'une vie, que ce soit la sienne propre ou celle des autres. Mais je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois d'avancer, oui, d'ouvrir des portes, de découvrir des choses en ce qui concerne soi-même, et en même temps de se désencombrer aussi de soi-même. Il ne s'agit pas de se renier, mais se désencombrer. Et on n'a pas assez d'une vie pour le faire.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Sylvie Germain. Je rappelle que ce livre s'intitule « Le vent reprend ses tours ». Et je voudrais ajouter quelque chose que j'ai éprouvé personnellement en le lisant, c'est qu'il est tellement visuel que j'espère qu'un jour, il deviendra un film.
Ah, avec plaisir.
Merci beaucoup. Le nouveau livre de Sylvie Germain s'intitule « Le vent reprend ses tours » et il vient de paraître aux éditions Albin Michel. Oh, C'est avec bienveillance de Canine que nous allons nous quitter. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Pierre Dindy. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, comme d'habitude, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka Assayas pour son Very, Very Good Trip.